Je suis très heureux d'être ici, c'est sans doute parce que je produis et présente l'émission comique de France Culture, la suite dans les idées, qui est diffusée, parce que je reprends les bons conseils, le samedi à 13h30 sur l'antenne de France Culture, et qui parle en général de sciences sociales. Ça me fait tout drôle d'ailleurs, parce que c'est une émission qui a été pendant un temps produite ici, dans cette salle, chaque semaine, du temps où elle était le jeudi midi. Et donc voilà, et je suis très heureux d'être ici dans ce lieu qui me semble retrouver ses missions de départ et n'être plus seulement un musée d'art contemporain, parce que c'est pas que ça, Beaubourg, c'est beaucoup de choses, enfin pour moi en tout cas, c'est comme une super grande maison de la culture qui se résume pas à un musée d'art contemporain, aussi beau soit-il. Alors, à côté d'Antoine Bueno, il y a Christelle Paré, qui est une chercheuse, québécoise, on peut dire comme ça, londonienne aussi on peut dire, puisque maintenant vous êtes rattachée à l'université de Brunei à Londres, dans un centre de recherche qui s'intéresse à la comédie. Et on sait qu'en Angleterre, depuis une trentaine d'années, comedy is the new rock and roll. C'est vraiment quelque chose de très important dans ce pays. À vos côtés, Marlène Coulon-Gully, qui elle est professeure de sciences de l'information et de la communication à l'université de Toulouse. Et qui travaille sur des questions de médias et de genre en particulier, et là pour le coup d'humour et de comique. À côté, Alex Vizorek, qui lui est humoriste aussi, chroniqueur, qu'on entend sur les ondes d'une station sœur de France Culture, France Inter. Et puis Monique Dagneau, qui est sociologue, qui est directrice de recherche au CNRS, qui travaille sur la culture depuis longtemps, sur les médias et en particulier sur les usages des médias que font les jeunes depuis maintenant un certain temps, sur le web en particulier, et sur la culture numérique aussi, la culture du web. Alors, je voudrais qu'on parte, parce que on va parler de médias et d'humour, c'est extraordinairement large aujourd'hui. Médias, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire, ça peut être une scène de théâtre, comme à l'instant avec Antoine Bueno, mais ça peut être une radio, classiquement, ça peut être le web, où on a vu des choses nouvelles se développer ces dernières années, mais c'est peut-être plus classiquement, et je voudrais qu'on commence avec vous, Marlène Coulon-Gully, un journal, en l'occurrence celui dont vous avez décidé de nous parler, un journal de 8 pages et qui a toujours résisté à l'envie, c'est assez rare dans le domaine, d'être plus épais, qui est aussi le journal dans lequel les journalistes sont le mieux payés en France et qui a le plus grand nombre de journalistes rapportés au centimètre carré de papier qu'il imprime chaque semaine. Ce journal, c'est Le Canard Enchaîné.
Merci. Oui, alors deux mots sur ce Canard Enchaîné. Comme vous le notiez, c'est un journal qui a en plus la particularité de ne pas être sur Internet. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, je pense notamment aux plus jeunes, ne savent même pas qu'il existe et ne savent pas quelle est la spécificité de ce journal. Le Canard Enchaîné, c'est une institution en France, puisque ce vieux monsieur, en fait, va fêter ses 100 ans dans quelques mois. Je pense que c'est un des journaux les plus anciens et qui a débuté. Les premiers temps de sa rédaction se sont trouvés rue des Petits Pères. Alors ça ne s'invente pas, et quand on travaille sur le genre, on est évidemment tout de suite interpellé par cette particularité. Et avant de rentrer dans l'analyse brève, hein, puisque j'ai bien compris qu'on n'avait pas trop de temps, de ce journal, en propos liminaire, c'est toujours dangereux quand on prétend être bref, bien sûr, je voudrais d'abord rappeler que le rire est un art de l'empathie. Alors, pour que jaillisse précisément l'étincelle du rire, il faut que émetteur et récepteur soient en phase. Et ça, c'est extrêmement important. C'est important dans toutes les formes de rire et avec tous les médias. Alors, il se trouve que rire des femmes est un ressort comique quasi garanti, et ce depuis fort longtemps. On se rappelle évidemment de Xénophon, Aristophane, Juvénal, des textes de misogynie du Moyen-Âge, du théâtre de boulevard, et aujourd'hui les sites sur les blagues de blondes sont parmi les plus visités. Donc on voit qu'on a là une permanence du rapport au sexisme, et que les blagues sur les femmes continuent de faire de l'audience. Alors, Le Canard Enchaîné journal progressiste par ailleurs, s'inscrit pleinement dans cette tradition, et c'est précisément là-dessus que je souhaiterais intervenir. Alors, je me limiterai plus exactement à quelques rubriques, certaines contemporaines, d'autres plus anciennes, qui constituent une sorte de fil rouge dans l'histoire du canard et me paraissent révélatrices de cette posture. Alors, petites images. Alors ça, est-ce que je vais savoir remonter ce truc-là ? Ah là là, je vais essayer de ne pas... Connexion interrompue, ça veut dire quoi ?
Pas de blague sur les femmes et l'informatique.
Bien. Alors, c'est moi qui essuie les plâtres, puisque je suis la première, et je ne vais pas appeler au secours Renaud.
C'est entanté avec le...
Ah, ouais. Ah, mais ça va mieux, voilà, voilà, voilà.
Alors, vous
disiez à propos des femmes. Hop, hop. Alors, non, ça va aller, descendez pas, hein, c'est pas la peine. J'active le mode plein écran et c'était justement pas ce que je voulais faire. Ah ben voilà, tout s'explique.
C'était pas branché.
Alors, pour revenir en avant, hop, voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, en 2000, apparaît en une rubrique absolument hilarante intitulée « Le journal de Xavier T. » que vous voyez s'afficher à l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est que le journal de Xavier T. ? Vous vous rappelez peut-être qu'en 2000 ont eu lieu les élections municipales à Paris et que l'un des prétendants à ces élections municipales, c'était précisément Jean Tiberi, Xavier T. étant son épouse. Xavier T, son épouse, son âme damnée, il se trouve qu'elle avait été sollicitée pour rédiger un rapport par son propre mari, donc pour la mairie de Paris, et que ce rapport était bourré de fautes, d'où le E fautif dans le journal de Xavier T. Et Lort, en raison des multiples affaires qui traînaient comme des casseroles derrière le couple Tiberi, le juge a fait une perquisition. Il a effectivement trouvé un journal intime qui était le journal de Xavier. Ce qui a probablement donné l'idée à Frédéric Pagès, le probable auteur de cette rubrique, donc d'écrire ce fameux journal de Xavier T. Juste avant que Xavier Tiberi, victime d'un malaise cardiaque, ne rejoigne son mari au Val-de-Grâce, le canard avait reçu par des voix mystérieuses ses notes signées Xavier T. Incontestablement, l'auteur sait tout sur cette palpitante bataille de l'hôtel de ville de Paris. Mais qui est Xavier T ? Nous croyons savoir que son mari s'appelle Jean T. Pour ménager les lecteurs sensibles, nous avons corrigé les fautes d'orthographe. Donc, première rubrique, dans les années 2000, qui contrefait un journal intime ? Quelques années plus tard, une autre rubrique prend le relais. Donc, en une, toujours, paraît le journal de Carla B. Alors, on remarque comme précédemment que le nom propre figure par sa seule initiale. Hein, c'est une convention classique dans les journaux intimes pour protéger l'anonymat de l'auteur. Alors, les événements de la présidence de Sarkozy sont évoqués du point de vue de son épouse. Hein, c'est en quelque sorte la politique vue du boudoir. Nicolas Sarkozy étant quant à lui désigné comme Nick ou mon mari, avec une double majuscule qui marque bien l'emphase attachée à ce titre. Mercredi, c'est le jour de parution du canard, c'est bien la peine de lui offrir une Patek Philippe. À cause de moi, Nick arrive en retard au Conseil des ministres, autour de la grande table, tous les ministres comprennent. Si le président de la France, qui se lève tôt, avait les yeux cernés et le souffle court, ce n'est pas à cause de son jogging solitaire, etc., etc. Puis, en 2000, 12, lors de l'élection de François Mitterrand, et toujours en une, apparaît une fois encore un journal intime, une contrefaçon de journal intime qui s'intitule cette fois-ci « La vérité si je mens ». Donc on voit à gauche de la rubrique un dessin de Cardon où le président Hollande se trouve défiguré par un baiser carnivore de sa compagne. Alors, on rit, bien sûr, à la lecture de ces pseudo-journaux qui sont drôles, qui sont bien écrits, qui sont pleins d'humour. Et le plaisir de la reconnaissance qui nous permet d'identifier dans ces propos les bonnes blagues auxquelles nous ont habitués des siècles de tradition misogyne n'y est pas pour rien. En effet, ces pastiches sont l'occasion de recycler les lieux communs et les stéréotypes les plus éculés s'agissant d'une présumée identité féminine. Xavier T est vulgaire et bigote, et l'admiration béate qu'elle porte à son mari confine à la bêtise la plus crasse, car l'abbé est frivole. Face à la misère du peuple, elle s'écrie « Ma prochaine œuvre humanitaire devait être signée Christian Dior pour tout le monde. » Et face aux problèmes de sécurité, « Si je dois porter un gilet pare-balles, qu'il soit au moins signé Karl Lagerfeld. » Valérie T est férocement jalouse et voit dans toutes les femmes des rivales. Elle m'échauffe sérieusement cette Merkel, Anne Palache et François d'une semelle, mais embrasse-le sur la bouche tant que tu y es. Elle est autoritaire, violente, perfide, cancanière, bref, tous les stéréotypes du genre sont mobilisés pour aboutir à une caricature de la virago. Bref, ces pastiches s'inscrivent dans une tradition du travestissement qui remonte, pour le Canard enchaîné, aux années 30. Dès cette époque, en effet, il a publié des rubriques pastichant des genres journalistiques féminins, signés par des noms de femmes, mais rédigés par des hommes. Un sacré trouble dans le genre. Alors, ces textes, une fois encore, jouent sur des ressorts comiques qui sont liés à l'exploitation des stéréotypes féminins. Alors, une des premières rubriques s'intitule « Le courrier des canettes ». Pastiche des courriers du cœur en vogue dans les journaux féminins. La rubrique est signée Valentine de Coincoin, pseudo de Pierre Châtelain-Taillade. Il semble même que la fille de Pierre Châtelain-Taillade ait écrit un certain nombre de ces rubriques, mais c'est évidemment son père qui les a signées. On connaît ça, voir les Claudines par exemple. Les recettes de cousine Douille existent elles aussi depuis fort longtemps. Alors, on peut par ailleurs supposer, dans ce cas-là, que la douille, instrument de cuisine bien connu dans la forme et peut-être l'usage, rappelle l'organe masculin, masque la couille suggérée par la présence contrepétrique de la cousine. Et enfin, dans les années 70, paraît une autre rubrique qui s'intitule « Le courrier de Jeanne Lacan ». Donc, on reconnaît là le nom mixte de Lacan et de la canne de Jeanne de Brassens, hein, nom qui est bien en phase, avec la famille du Palmipède et c'est Jérôme Canard. Cette rubrique est en fait rédigée par deux journalistes hommes, bien sûr. Donc, on le voit, tout au long de son histoire, depuis les années 30 jusqu'à nos jours, ce journal, Le Canard enchaîné, un journal progressiste par ailleurs, use d'un sexisme, enfin d'un humour décidément sexiste, et ce quasiment sans interruption. Alors, bien sûr, il s'agit d'humour, et le dispositif parodique empêche d'identifier le propos ici mis en scène à leurs auteurs ou de le prendre au premier degré. Les ambiguïtés de l'humour dans le traitement du genre soutiennent les stratégies d'optimisation du Canard, hein, puisque certains lecteurs peuvent lire ces rubriques et les comprendre au premier degré, d'autres, en revanche, au second degré. La permanence de ce thème dans l'histoire de Canard invite néanmoins à s'interroger. On a évoqué dans la table ronde précédente différents types de rire, le rire avec et le rire contre. Or ici, on se demande effectivement si on ne rit pas moins avec les femmes qu'on ne rit d'elles. Ce qui me ferait conclure à ce que j'ai appelé par ailleurs le sexisme bien tempéré du Canard enchaîné. J'ai pas été trop longue.
Ça va, on va faire un premier tour de parole de toute façon pour pouvoir échanger. Donc, après Le Canard enchaîné qui effectivement n'a pas de site internet ou tout juste une page pour mettre la une de la semaine, qui est un choix, je pense que c'est le seul journal en France qui maintient ce choix 20 ans ou plus après la naissance des sites web. On passe au contraire avec vous, Monique Dagneau, à l'humour tel qu'il se donne à voir sur le web et à travers des formats qui sont spécifiques au web et notamment évidemment les youtubeurs.
D'abord, il faut dire quand même que sur le web, tout circule. Donc je pense même que des phrases ou des séquences du Canard enchaîné doivent circuler, reprises. Donc l'humour du web, il est à la fois très global, et il recueille finalement tout ce qui se passe dans les médias et notamment les médias audiovisuels. Et l'humour étant d'ailleurs un ingrédient très important des médias audiovisuels, j'aurais pu aussi faire un exposé sur le sujet puisque j'ai travaillé longtemps sur la télévision et sur la radio. Et puis depuis une dizaine d'années, je travaille effectivement sur la culture du web vue plutôt à travers l'œil des jeunes. Alors, j'ai entrepris des travaux sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les sites plutôt fréquentés par la jeunesse. Et donc, c'était il y a à peu près 5-6 ans. Et ce qui me frappait vraiment, c'était que l'on pouvait dire, à travers ce regard, on voyait que le web pouvait être considéré comme le média de la légèreté de l'être. C'est-à-dire tout ce qui est rationnel, sérieux, commenté, établi dans le monde des médias anciens, mais et aussi dans le monde réel, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'information, tout était destiné à être retourné, dynamité, vu d'une autre façon, parce que il y a des nouveaux mécanismes qui existent par justement la technologie du web, c'est-à-dire les mécanismes de retournement, de détournement et de commentaires à l'infini de ce qui se passe à la fois dans les médias anciens et dans le monde. Alors, il y a quelques éléments. Donc, on pourrait dire que le web permet une extension du domaine de l'humour par donc, différentes voies. La première voie, c'est évidemment le rôle des geeks, des informaticiens et des artistes amateurs, c'est-à-dire qui ont une voix à la parole humoristique, critique évidemment, de tout le monde. Et pour participer au web, finalement, il ne faut pas beaucoup de dextérité technologique. Tout le monde peut commenter ou utiliser Photoshop pour faire des parodies, des pastiches, etc., de ce qui se passe dans le monde réel et dans les médias anciens. Ensuite, il y a d'autres phénomènes. Donc, le premier chose, c'est effectivement cette parole amateur, dont une partie est devenue les YouTubers. Alors, ce sont des amateurs qui prétendent avoir ou qui entendent avoir des talents artistiques et qui veulent les faire connaître. Et d'ailleurs, certains ont bien réussi. On a parlé tout à l'heure des YouTubers de l'humour jeune à travers Norman, Cyprien, etc. Je dois dire que je me suis beaucoup délectée, malgré mon âge, à ces sketchs, ces stand-up qui ont été lancés dans les années 2011. Et qui sont, alors c'est un humour qui est vraiment, alors on pourrait presque dire que c'est un humour communautaire, parce que c'est la vie des jeunes vue par les jeunes, avec bon, toutes les petites histoires de la vie, des lycées, des amourettes, la découverte des technologies, le premier smartphone, le permis de conduire, bon, etc. Et c'est une approche assez rafraîchissante, et je disais toujours dans mes exposés, si vous ne connaissez pas la vie de vos enfants, je vous suggère d'aller voir les stand-up qui circulent sur le web par les YouTubers. Il y a une autre veine aussi qui suscite finalement le rire. Ce sont les phénomènes de mème, M-E accent grave, c'est-à-dire M-E accent grave, M-E-S, qui vient du mème, c'est-à-dire des images, des formes culturelles, une vidéo ou une simple image qui connaissent une circulation virale, qui sont donc lancées. Et puis, au fur et à mesure qu'elles circulent de façon abondante, elles sont commentées, détournées, transformées, etc., etc. Alors, c'est un phénomène tout à fait de la culture du web qui a été beaucoup analysé par les chercheurs. Et dans ces images, il y a des images que j'imagine tout le monde connaît ici, les fameux lolcats, c'est-à-dire ces images de chats qui incarnent finalement des sentiments humains ou des réflexions humaines. Donc ça, c'est un autre aspect de la culture du web. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres aspects. Vous avez des web-séries qui sont réalisées par des amateurs. Pour un moment, je travaillais beaucoup sur l'emploi des jeunes et notamment, j'ai regardé comment les jeunes, à travers notamment des petites séries, parlaient de leur situation déplorable, comme chacun sait, vis-à-vis de l'emploi. Et tout ça sur un ton très humoristique. Donc, il y a aussi d'autres phénomènes qui sont apparus, comme effectivement des vidéos trafiquées. Ah, et évidemment, en matière politique, il n'y a personne, je ne sais pas si les politiques sont au courant, aucun politique n'échappe à la caricature, à sa caricature sur le web, c'est-à-dire à sa photo trafiquée. Vous avez, évidemment, vous en avez eu énormément à l'époque de Sarkozy, mais Hollande a été autant traité par l'image détournée. À peine, par exemple, ces photos officielles étaient apparues en 2012 qu'elles ont été totalement trafiquées. Mais disons, le trafic de l'image des stars, des gens connus, c'est une constante du web, qui s'inscrit évidemment dans une grande tradition de la caricature, mais ça, c'est fait par des amateurs et c'est fait en abondance. C'est une sorte de démocratisation de l'humour par des pratiques qui sont justement dévolues à des amateurs et qui ensuite éventuellement deviennent plus ou moins professionnels, comme les YouTubers. Ceci pour dire qu'au final, à travers ces nouveaux médias, ce qui se passe, c'est que vous avez cette démocratisation du rire qui existait bien avant. Moi, j'ai beaucoup relié ces images, ces caricatures, ces web-séries, cette façon de se moquer du monde avec ce qui s'est passé juste après la Révolution française, c'est-à-dire les libelles et les caricatures qui paraissaient sous le manteau à l'époque et qui critiquaient les puissants. Donc, en fait, c'est vraiment dans une tradition. Mais aujourd'hui, la grande différence, c'est que technologiquement, ça peut être assez sophistiqué. Ce sont des images animées la plupart du temps. Et surtout, c'est tout le monde qui peut justement participer à cette démocratisation du rire. Alors, le rire sur le web, il a quand même une dimension. On a parlé tout à l'heure du rire contre, du rire critique contre les puissants. On a parlé du rire de d'où vient-il, qui parle, etc. Dans le web, tout est possible. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est plutôt un rire qui vise à ce que les professionnels des médias ont longtemps appelé le défouloir. C'est-à-dire que vous pouvez dire tout et n'importe quoi, ça peut être critique pour contre les puissants, c'est souvent évidemment cette ligne-là, mais c'est souvent banal, insignifiant, mais ça fait rire tout le monde. Par exemple, les mèmes, souvent les images de mèmes, c'est-à-dire ces images qui circulent, font la caisse à travers le web, souvent, franchement, vous les regardez et c'est assez énigmatique. Vous vous demandez pourquoi ça suscite autant de rire. Et quand j'ai travaillé justement sur les travaux, en m'inspirant des travaux de Robert Darnton, qui a travaillé sur les libelles après la Révolution française, donc dans un livre que je vous encourage à lire qui s'appelle « Le diable dans le bénitier », eh bien, en fait, il disait que souvent, les images qui circulaient étaient plutôt énigmatiques, avec un sens à découvrir, et ne se donnaient pas d'elles-mêmes. Si vous ne laissez pas nécessairement une caricature dont on comprend le sens. Et vous avez dans Internet une multitude d'images ou de vidéos dont, finalement, au départ, il faut une participation du spectateur pour véritablement s'approprier le sens et même en découvrir le sens. Donc, je pense que c'est plutôt un humour qui va dans beaucoup de directions, qui n'est évidemment pas du tout un humour comme on entend à la radio, c'est ce dont je voulais parler, c'est un humour très construit, très écrit. C'est un humour surtout à base d'images et de figurations et qui utilise tous les ressources de l'humour, c'est-à-dire le rire, l'aspect espiègle, mais aussi évidemment l'humour qui détruit, qui fait mal, qui ricane. Enfin, comme vous savez, Voltaire distingue bien l'humour qui fait éclater de rire. C'est ce que moi j'ai appelé, en parlant d'un type d'humour qu'il y a dans le web, c'est le LOL, c'est-à-dire le laughing out loud. C'est le rire qui vous fait taper sur les cuisses et qui est un rire qui rassemble. Et puis, il parle aussi d'un humour qui est un humour méchant, qui est le ricanement, très largement aux dépens de quelqu'un. Et vous avez aussi, bien évidemment, très largement aussi cette dimension-là dans le web. Mais l'humour du web, ça part dans beaucoup de directions et ça a quand même plutôt l'objectif du défouloir. Alors, ce que je voudrais dire, je ne sais pas si j'ai encore une minute pour m'exprimer, c'est que j'ai repris un peu cette lecture des images détournées, des web-séries pour cette conférence aujourd'hui. En fait, je trouve que c'est devenu extrêmement répétitif. C'est-à-dire les YouTubers, par exemple, ont été... ce sont évidemment des producteurs, c'est la télévision qui s'en est emparée. Et finalement, bon, par exemple, Cyprien et Norman continuent d'être... Bon, ils sont d'ailleurs 10 fois plus vus, ils sont vus des millions de fois qu'ils étaient même il y a 4-5 ans. Ils continuent une carrière, ils sont devenus évidemment des professionnels. Mais derrière ça, vous avez une flopée d'amateurs qui visent à faire un peu aussi du stand-up à propos de la vie des jeunes. Et franchement, c'est devenu assez répétitif et même assez lourdingue. Donc, si on parle des problèmes de même, l'autre aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ces circulations virales sur des images énigmatiques qui faisaient rire des communautés de geeks, finalement, depuis, il y en a eu en 2013, très connu, d'un chanteur coréen, Gangnam Style. Vous avez dû voir, c'est une chanson absolument sans intérêt, c'est une chanson disco, mais qui a été vue par tant de monde entier. Et depuis, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup moins de mèmes, enfin, qui ont, comme ça, fait l'objet de beaucoup de commentaires. Et qu'aujourd'hui, c'est plutôt aussi... Ce n'est pas quelque chose qui s'éteint, mais ça fait plutôt rire des communautés d'initiés. J'ai regardé l'humour qu'il y a aujourd'hui autour de Daesh, par exemple, puisque c'est un humour qui va dans toutes les directions et qui est censé s'emparer de tous les sujets qui émergent. Eh bien, c'est vraiment un humour assez pâle. Hein. Il y a évidemment le logeur de Daesh, voilà, Jawad. Bon, vous avez évidemment quelques séquences humoristiques donc qui commentent cette fameuse vision du logeur du web juste après les attentats. Et en fait, ça va quand même pas très loin. Les Anonymous ont décidé il y a pas très longtemps qu'ils allaient faire lancer tout un ensemble de séquences sur Daesh. Et en fait, honnêtement, c'est vraiment assez pauvre, si vous voulez. Et donc, mon impression, c'est qu'il y a d'une certaine façon, même si tout ceci continue d'être intéressant, et je vous encourage quand même à aller explorer ces stand-up et ces YouTubers, je pense qu'il y a pour une part un peu un épuisement des talents amateurs, parce que ça devient assez répétitif, et aussi... cet humour, il tend finalement à coller un peu à l'humour de l'opinion publique, qui est quand même un humour, qui est une vision assez sombre, pessimiste sur le devenir de notre société. Et donc, on passe pas mal d'un humour qui était vraiment éclat de rire, le lol, à un humour plutôt sombre, ricanement, le rire aux dépens et assez méchant vis-à-vis des individus et notamment des politiques. Je termine juste sur un point, puisque vous êtes là. En fait, à bien regarder, j'écoute beaucoup ce qui se passe en radio. Et je trouve que l'humour, ce qui finalement décode avec le plus de virulence et d'aspect corrosif le monde d'aujourd'hui, notre monde contemporain, qui est un monde assez chaotique, mais ce qui, à mon avis, le vise de la façon la plus pertinente, c'est l'humour en radio. Parce que c'est un humour qui est très écrit et qui joue pas sur l'image, mais c'est un humour qui est très pensé et qui d'ailleurs vient souvent du journalisme ou de la scène, comme Nicole Ferroni, mais elle a aussi été professeure. Donc voilà un peu rapidement la description que je pourrais faire. Alors, je suis chercheur, mais je suis aussi co-éditrice d'un site web qui s'appelle Telos, où nous publions un article de chercheur par jour, et mon article est sur ce site aujourd'hui. Ça s'appelle Telos, et je vous encourage là aussi, c'est pas humoristique du tout. Voilà, merci.
C'est un très bon site d'ailleurs, passionnant. Non, c'est pas une performance. Non, parce qu'on se méfie. Christelle Paré, je vais vous passer la parole peut-être pour que vous nous racontiez ce qu'il en est au Québec et peut-être pour prendre dans son acception large le terme média, parce que Monique Dagneau nous expliquait ce qui se passait sur le web, certains essoufflements ou une répétition. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, de comprendre, c'est quelle peut être la relation entre l'humour dans le web et sur les scènes. Parce qu'on sait très bien, par exemple, que la numérisation, la dématérialisation a eu un effet sur la musique. Aujourd'hui, c'est pas très important de vendre des CD pour un musicien. En revanche, faire des concerts, c'est devenu essentiel. Est-ce qu'on assiste au même type de phénomène s'agissant d'humour ? Et est-ce qu'au fond, le monde numérique qui est le nôtre désormais incite ceux qui sont des internautes à aussi aller voir des spectacles live avec des vrais comiques vivants sur scène ?
Absolument. En fait, et je remercie d'ailleurs les organisateurs du colloque de m'avoir invité. Et je tiens à vous faire toutes mes condoléances. Je vais parler avec un accent québécois. Je suis désolée et en plus, je suis enrhumée. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je comprendrai. Donc oui, la situation au Québec, au niveau de l'humour, c'est vraiment une industrie rodée, huilée, de plusieurs millions de dollars canadiens, donc pas beaucoup en euros. Mais... et où le spectacle de scène est vraiment le cœur de l'industrie. Et malgré l'omniprésence, en fait, des humoristes sur scène, il n'y a jamais eu autant de billets de spectacles vendus que présentement. En fait, depuis l'industrialisation de l'humour au Québec, depuis 1983, la vente de billets va toujours en augmentant. Donc, contrairement aux industries comme la musique, le livre, l'humour vit une espèce d'immunisation des nouvelles technologies et vraiment n'a jamais été dans une aussi grande santé. Et on a un petit problème. Ça va aller? Wow! Et voilà. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, je suis ici pour vous faire un survol extrêmement rapide de l'impact de l'humour dans les médias. En fait, tout simplement, depuis 30 ans, il y a une question qui revient année après année dans les médias québécois. Est-ce qu'il y a trop d'humour ou d'humoristes au Québec? Et la question se pose encore aujourd'hui, alors que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de billets vendus. Donc, je vais faire très rapidement un pourtour des statistiques, des notions, à quoi ressemble le marché au Québec présentement et à quel point on retrouve cet impact à la télévision, cinéma, radio, presse, publicité et, bien entendu, le web. Donc, tout d'abord, comme je vous disais, c'est le spectacle vivant qui vend le plus au Québec. Donc, si vous comptez tous les billets de spectacle pour la musique, le théâtre, la danse, il y a un billet sur quatre qui se vend pour un spectacle d'humour. Et quand je parle de spectacle d'humour, je vous parle d'un spectacle qui dure entre 90 et 120 minutes, donc du type one-man show, personne seule sur scène, avec ou sans première partie. Pour 2014, il y avait 34 spectacles d'humour sur le marché québécois. Et je vous rappelle qu'on est seulement 7 millions. Donc, vous pouvez vous faire une idée à quel point le marché est important. Quelques données. Le taux d'occupation des salles, aucun spectacle vivant n'obtient un pourcentage aussi grand de l'occupation de ces salles. Et pour ce qui est des revenus de billetterie, 2013, on était à 47 millions, donc je pense que c'est une trentaine de millions d'euros, encore une fois, sur un tout petit territoire d'irréductible francophone dans le nord de l'Amérique. Donc, quand on regarde la trajectoire d'un humoriste de scène au Québec, on voit à quel point elle était extrêmement liée au monde des médias. Tout d'abord, une formation peut passer par l'École nationale de l'humour, qui, en fait, est une école reconnue par le ministère de l'Éducation, qui fonctionne exactement comme un conservatoire de théâtre ou de musique. Il y a entre 12 et 14 personnes qui sont acceptées à chaque année, soit dans le programme de création humoristique, donc d'humour de scène, ou encore d'écriture humoristique sur environ 125 à 150 candidatures à chaque année. Et bien sûr, il y a aussi les autodidactes, ceux qui arrivent de nulle part et qui fonctionnent très, très bien. Donc, dans les débuts de leur carrière, les humoristes vont se retrouver sur les scènes des bars, des petites salles de spectacle, jusqu'à temps qu'ils se fassent remarquer par les gros joueurs de l'industrie. Tout le monde est familier avec Juste pour rire, mais il n'y a plus que Juste pour rire au Québec. Il y a beaucoup d'autres joueurs de poids. Et ces joueurs de poids-là vont devenir les agents, les gérants des humoristes, et on va voir ces jeunes humoristes-là de plus en plus prendre de place dans les festivals d'humour, présenter un numéro de gala, Et à travers les numéros de gala qui sont diffusés, bien entendu, on espère bâtir la légitimité, la crédibilité de l'artiste, sa popularité. Jusqu'à ce qu'on décide de dire la popularité de cet artiste est si forte que l'on peut maintenant investir 500 000 $ ou 350 000 euros probablement en mise en marché pour présenter un one-man show. Et encore une fois, je répète, 350 millions, aucun artiste québécois ne va avoir une telle somme pour la mise en marché de son spectacle ou de son œuvre artistique. Une fois le one-man show qui circule, à ce moment-là, l'artiste atteint un sommet au niveau de sa popularité et on le retrouve par la suite à la télévision, dans des films. Vous connaissez tous Stéphane Rousseau, on n'a pas été capable de le rembarquer chez nous. Anthony Cavanagh, même chose, exactement passé par cette trajectoire. Mais ce qu'on voit depuis quelques années, en fait, c'est qu'on n'a plus vraiment besoin du one-man show pour atteindre, je vous dirais, la légitimité artistique, la reconnaissance par les pairs. On peut continuer à rester un peu dans les scènes parallèles, construire une crédibilité, notamment par le web, pour éventuellement aller directement des rôles à la télévision ou au cinéma. Ainsi, les artistes qui ont atteint un certain niveau peuvent décider, si le cœur le en dit, de revenir sur scène. Mais ce n'est plus le modus operandi tel qu'il a été dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Parallèlement à cela, énormément de tâches artistiques sont demandées de la part des artistes de l'humour. Donc, de l'écriture pour la télévision, la radio, ils vont faire la mise en scène de certains de leurs collègues, ils vont être extrêmement sollicités au niveau de la publicité également. Donc, il y a une multiplication des plateformes qui font en sorte que même certains artistes vont souffrir de surmenage. En fait, on dit que c'est un humoriste professionnel sur cinq qui va souffrir de surmenage, qui va devoir être arrêté. Même le cas de l'humoriste Martin Matt, au sommet de sa carrière, s'est complètement effondré sur la scène du Grand Théâtre de Québec, complètement épuisé, trou noir, plus capable de fonctionner. Donc, à la télévision... Oui, bonne chance. Je ne veux pas faire peur à personne.
Non, il y a de la marge.
Oui, oui, bien sûr. Donc, les humoristes maintenant sont, comme je vous disais, extrêmement omniprésents. À la télévision, non seulement ils ont des rôles dans les comédies de situation, mais les comédies de situation, ce n'est pas notre fort au Québec. Nous, on est plutôt les parodies ou encore les jeux télévisés. Alors, c'est là qu'on va retrouver la plupart des jeunes artistes émergents en attendant que les gros producteurs disent « OK, maintenant, j'ai les 500 000 $ que ça me prend, ta crédibilité est faite, ça ne me dérange pas, tu animes Jeopardy depuis un bout de temps, on va investir pour un spectacle sur scène. » Mais par contre, le poids de certaines émissions humoristiques est si important qu'il peut changer la donne. Dans le cas de « La petite vie », c'était une sitcom complètement absurde qui a eu cours durant les années 90. On a utilisé La Petite Vie. En fait, on s'est rendu compte que La Petite Vie était un outil de communication interculturelle, d'intégration des immigrants. Parce qu'à tous les lundis soirs, la moitié de la population du Québec était rivée sur son écran à regarder les aventures de la famille Paré. On n'a aucun lien de famille. Et au point où le lendemain, au boulot, les gens parlaient de ce qu'ils avaient vu durant l'épisode. Donc, les nouveaux arrivants écoutaient l'émission pour avoir quelque chose à dire le lendemain, à discuter le lendemain avec leurs collègues de bureau. Et une popularité, comme je vous disais, la moitié de la population du Québec écoutait l'émission. Le ministre de la Santé a écrit à l'auteur principal de l'émission pour le remercier, car grâce à lui, il y avait moins de monde dans les urgences le lundi soir. C'est pas peu dire. Autre chose très importante, l'impact à la télé de l'industrie de l'humour au Québec, c'est le gala récompense, le gala des Oliviers, qui poste énormément 11 à 13 catégories de récompenses pour les artistes de l'humour, que ce soit la radio, la télévision, sur scène, bien entendu, mise en scène, écriture. C'est un des galas de récompense les plus écoutés au Québec. Donc, on a toute cette peopleisation autour de nos humoristes. Au niveau du cinéma, eh bien, ce sont les champions du palmarès, bien entendu, mais ce n'est pas le cas seulement du Québec. Donc, de grands humoristes ont fait le passage au cinéma et les deux films qui ont amené le plus au box-office, Bon Cop, Bad Cop, qui mettait en vedette Patrick Huard et De Père en flic avec Louis-José Hood, deux grands humoristes vraiment qui sont rendus dans un statut un peu de demi-dieu au Québec. Et certains humoristes ont même fait le saut du côté des dramatiques, dont Stéphane Rousseau, entre autres, dans Les Invasions barbares. Et ça, ça a créé des frictions avec les comédiens. Soit dit en passant, ils ne sont pas trop contents de perdre des rôles par rapport à des clowns. On retrouve aussi les humoristes du côté de la radio. Bien entendu, d'ailleurs, il y a une concurrence exceptionnelle entre les radios commerciales pour ce qui est des émissions qui sont animées par des humoristes. Et tout ça engrange aussi toute une économie de l'écriture pour ce qui est de l'humour au Québec. Donc, il y a des artistes qui ne font qu'écrire et qui peuvent facilement gagner 260-300 000 $ par année en écrivant pour la radio ou la télévision. Donc, des gens qui vivent très bien, mais qui sont dans l'ombre. Donc, il y a de l'espoir, les gars. bien sûr. Et certains humoristes, bien entendu, ont leur propre album de chansons. Ici, vous avez les Denis Drolet, qui, je crois, incarne ce que Nelly Kemner appelait tout à l'heure « la revanche des moches ». Laurent Paquin, aussi humoriste qui roule sa bosse depuis les années 90. Et finalement, le groupe mythique « Rock et belles oreilles », qui a fait un retour après pratiquement 20 ans d'absence. On fait un retour sur scène en ne chantant que leur grand succès. Donc, tous les sketchs qu'ils ont fait auparavant, presque laissés tomber. On a fait un spectacle au Centre Bell à Montréal, au Centre Vidéotron à Québec, presque guichet fermé, et seulement en interprétant les chansons qui les ont fait connaître. Au niveau de la presse écrite et de l'électronique, il n'y a pas de critique. Je vous dirais, la critique culturelle n'existe plus au Québec pour ce qui est des humoristes. L'analyse des corpus de presse que j'ai fait montre que la plupart des articles à propos des spectacles sont soit neutres, donc l'auteur va dire « Ah, moi, j'ai peut-être pas ri, mais il y a un public pour ça », ou « Les gens à côté de moi riaient », et ils vont faire un résumé des blagues qui ont touché le plus la soirée. Donc, on dirait que les critiques artistiques n'osent plus attaquer les humoristes tant il y a une aura autour d'eux qui les protège d'une certaine façon. Et en même temps, pour les journaux, sachant que la population québécoise adore ces humoristes, eh bien, ils vont tout faire pour mettre des papiers les concernant, parce qu'ils savent que le journal va se vendre, ou au moins le journal va être lu. Donc, plus d'achats, plus de contrats commerciaux, marketing, et tout ça qui revient au journal. Par contre, il y a quand même quelques voix qui résistent encore et toujours à l'aura mythique et des humoristes. Une très grande désapprobation de certaines élites intellectuelles qui vont voir dans les humoristes vraiment des êtres vulgaires, qui abîment la langue française, qui provoquent pour le simple plaisir de provoquer, qui n'ont pas de contenu. Ensuite, du côté des ventes et marketing. Alors là, si vous êtes un humoriste avec une certaine crédibilité, une certaine popularité, vous pouvez augmenter les ventes, les revenus d'une entreprise d'environ 80 % tellement votre effet est important. Et c'est le cas, entre autres, de Lise Dion au cours des années 90, qui a signé un contrat de publicité avec la boulangerie Gadois, qui n'existait pratiquement pas, une boulangerie commerciale de pain tranché, comme on retrouve au supermarché. Et les ventes de cette boulangerie ont augmenté de 80 % en une seule année, faisant de cette boulangerie la plus grande boulangerie commerciale du Québec maintenant. Tout ça, juste avec l'utilisation d'un humoriste. Martin Matt est le porte-parole de la compagnie Honda depuis plus de 10 ans. Et pourtant, Honda a changé de compagnie publicitaire. Et malgré tout, les gens de Honda ont décidé, non, même si on change de firme, on garde Martin Matt, vous signez le montant que vous voulez, on le garde. Tellement l'impact de cet humoriste-là a eu sur les ventes. Pardon?
Non, je me demandais ce qu'on faisait là avec Alex.
Déménager, absolument. Finalement, le web. Alors, contrairement à d'autres industries culturelles où le web attaquer les revenus. Ici, les revenus ont été, je ne vous dirais pas augmentés, mais une certaine utilité par rapport au web, notamment pour ce qui est de la relève, des artistes émergents. C'est là qu'on va y bâtir notamment sa popularité, qu'on va essayer de se démarquer au niveau de la créativité. Et comme je vous disais, les humoristes sont vraiment partout, sur toutes les plateformes. Donc, vous devez imaginer à quel point chacun des artistes doit être extrêmement créatif pour pouvoir se démarquer dans un marché comme ça. Et le plagiat est un énorme no-no au Québec. Vous plagiez un autre humoriste et ça se sait immédiatement. Cet humoriste-là va être banni des maisons de production. On le met de côté. Ça peut en venir au point. Il y aura Par contre, il n'y aura pas de poursuite au niveau juridique, mais il y a vraiment une règle à l'interne qui fait que le plagiat, c'est vraiment, on ne touche pas à ça, on ne vole pas les blagues d'un autre artiste. Par contre, on peut quand même les vendre, on peut s'entendre avec lui pour les utiliser, ça, oui, bien entendu. Mais on ne, vraiment ne plagie pas de façon complètement ouverte. Donc, ce besoin de créativité-là est exacerbé. Non, c'est là que le web vient aider les humoristes, surtout de la relève, en donnant justement beaucoup d'outils pour justement varier leur créativité et essayer de se faire démarquer. Donc, les gros producteurs, comme Juste pour rire, Encore ou le groupe Faneuf vont regarder le nombre de clips, le nombre de clics sur les différents, des différents clips, des différentes pages Facebook et vont voir, OK, cet artiste-là a construit une certaine population autour de lui, une certaine clientèle qui est fidèle. Donc, pour nous, ça réduit le risque d'investissement, le risque financier et on peut maintenant investir vers cet artiste-là et l'amener à un niveau supérieur. Et c'est comme ça que des artistes totalement inconnus se sont fait repêcher et sont apparus à la télévision du jour au lendemain. Donc, en conclusion, même si depuis 30 ans au Québec, on se demande s'il y a trop d'humoristes, on en mange encore au petit-déjeuner, au dîner. On en rêve, on en a besoin, on leur donne de l'argent, on achète leurs billets. Certaines personnes vont aller voir 4 fois le même stand-up d'un artiste. C'est complètement fou. J'assistais au dernier spectacle de Louis-José Houde et dans la salle, il y avait des fans qui récitaient les blagues en même temps que l'artiste. Mais une blague, pourtant, ça devrait être moins drôle quand on la connaît. Mais non, on a vraiment des fans finis et qui sont là et qui, pendant 3 ans, ont été voir plusieurs représentations. Donc, pour ceux qui sont au top, ce qu'on appelle les humoristes, pour certains intellectuels, il y a définitivement quelque chose qui se passe et qui était très agréable. Et pour la relève, en fait, n'a jamais été dans une période aussi bonne, les gars, c'est temps de passer de l'autre côté. Parce que, justement, la multiplication des plateformes leur sied très bien. De plus en plus, les producteurs investissent au niveau des jeunes parce qu'on doit renouveler constamment l'offre. Et surtout que la génération au-dessus ne maîtrise pas très, très bien le web, ne garde pas ce contact avec ses fans aussi bien que les humoristes de la nouvelle génération font en ayant leur page sur Facebook, en étant actifs sur Twitter et tout ça. Les plus vieux, ils ne maîtrisent pas trop, trop bien le web. Donc, les producteurs ne sont pas fous, donnent beaucoup plus de place à la relève, notamment avec la création, et je crois que d'ailleurs tu y as participé, la création du festival ZooFest, entièrement dédié à l'émergence humoristique. Merci.
Et justement, Alex Vizorek, ça donne envie
Alors moi, j'y étais cet été au Québec. Je ne savais pas, puisqu'en fait, je suis un peu l'objet d'études et je trouve ça formidable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'intéressent de manière tout à fait scientifique à notre cas. Et donc, peut-être, je ne sais pas si dans l'ordre, je peux, parce que j'ai pris des notes de partout. Je vais commencer par madame qui parlait du Canard enchaîné. Alors, je voudrais dire un truc sur le Canard enchaîné. C'est le seul journal qui est venu me voir en payant sa place. Ça n'existe plus nulle part. C'est-à-dire qu'ils ne s'annoncent pas, ils payent leur place, ils ne vous disent pas qu'ils sont venus et vous découvrez l'article un jour parce que quelqu'un vous dit « Ah, bah, t'es dans le Canard aujourd'hui ». C'est quand même notable et je trouve que c'est la bonne façon de critiquer les spectacles quelque part. Ouais, je trouve ça assez juste. C'est Albert Algout d'ailleurs qui souvent s'occupe des humoristes. Pour la misogynie, oui, c'est une ficelle qui fonctionne bien, je vous demande pardon. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre misogynie et utilisation du cliché. Mais je vais vous expliquer parce que pas plus tard que ce matin, il faut différencier une blague misogyne d'une blague sur les femmes, une blague antisémite d'une blague sur les juifs, une blague islamophobe d'une blague sur les arabes. Oui, mais c'est quand même pour nous c'est important de se distinguer. Et plus on multiplie les blagues sur les minorités, plus on se dit qu'on s'acharne pas sur une seule.
Les femmes sont pas vraiment une minorité. Hein. 52% de la population. Enfin, bon.
Bien joué, bien joué. Bon, là, c'est ma faute, j'ai plongé dans l'erreur. Mais alors, parce que ce matin, j'ai fait un papier, parce qu'en Belgique, nous avons un ministre de l'immigration qui a eu cette excellente idée de proposer aux immigrés des cours de respect de la femme. Oui, c'est surprenant. Alors, ce matin, l'info est tombée
aux
hier.
Aux immigrés.
Oui, oui. Alors, mais ah, mais non, mais laissez-moi terminer le pourquoi. Mais je trouve ça ridicule aussi, hein, attention. Et donc, c'était l'info ridicule de hier. Ce matin, j'étais à la radio belge, je la traite et j'explique. Enfin, je donne donc le cours moi-même en disant que voilà, bah, c'est vrai que c'est important le respect de la femme et que la plupart de ces immigrés sont arrivés à Bruxelles, Gare du Nord. Ce qui Gare du Nord est à peu près l'équivalent de Pigalle chez vous. Et c'est vrai qu'on voit évidemment à cet endroit-là qu'on respecte pas mal les femmes ici. Et si c'est ça qu'il faut leur expliquer. Et alors bon, j'ai fait pas mal de blagues pour justement dénoncer la bêtise de cette idée-là, dénoncer. Et à un moment, j'ai fait une petite blague sur le fait que les femmes aimaient faire du shopping. Parce qu'à un moment, il faut utiliser un cliché, et c'est notre boîte à outils, le cliché. Et cette chronique a été échangée énormément aujourd'hui, et essentiellement par des femmes qui ont dit, et à ma grande surprise, parce que c'est jamais le but de défendre un fagnon, mais Vizorek, quand il parle des femmes, il nous défend bien. Alors j'ai fait une blague sur le shopping, mais donc c'était pas ni le but de défendre ni le but d'attaquer, mais le but de décaler. C'est souvent ça qu'on aime bien faire en radio, c'est d'essayer de montrer une autre façon de voir. Et donc j'ai utilisé ce cliché, et je pense pas que le papier en soi ait été misogyne, mais sans doute que pour le canard enchaîné, vous avez probablement raison. Et de toute façon, à partir du moment où vous l'avez trouvé misogyne, c'est que quelque part, ça l'était peut-être.
Mais non, ce qui est sûr, c'est que vraiment, le sexisme anti-femme, hein, parce qu'il peut y avoir un sexisme, mais je parle bien du sexisme anti-femme, reste aujourd'hui. Alors moi, je suis très étonnée. On pourrait se dire, bon, le canard enchaîné, finalement, c'est un très vieux média. Hein, ça, bon, c'est un, comme je le disais, hein, il va fêter ses 100 ans. Donc finalement, qu'il fonctionne sur la base de blagues misogynes, quoi de plus naturel, entre guillemets. En tout cas, c'est un fait de génération, on va le dire comme ça. Mais pas du tout, puisqu'en fait, sur Internet, et vous qui travaillez sur l'humour sur Internet, les blagues misogynes restent parmi les plus téléchargées. Et bon, j'évoquais tout à l'heure les sites de blagues sur les blondes, qui sont quand même une des concrétions, disons, les plus fortes du sexisme, qui restent, elles aussi, extrêmement visitées. Donc on a là, quand même, j'allais dire, un des fondamentaux, sinon de l'humour, en tout cas de la société française, et peut-être bien au-delà, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, en tout cas, un des fondamentaux de notre rapport à l'autre, à l'altérité, puisque les femmes restent quand même construites, en tout cas par les hommes, comme étant le radicalement autre.
Alors, je veux juste lui répondre sur justement le web, la culture des YouTubers. En fait, peut-être que sur Internet, c'est des blagues effectivement misogynes qui sont le plus vues et peut-être vous avez fait l'étude, mais les YouTubers, ce sont plutôt des jeunes garçons. Et ce sont des jeunes garçons qui parlent plutôt comme... des jeunes pris justement dans ce rapport avec les femmes, dans lesquelles les femmes sont plus brillantes, réussissent plus à l'école, sont plus finalement plus audacieuses. Et le fil des YouTubers, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est vraiment le loser. Mais un loser sympathique, hein, ce n'est pas un loser qui s'apitoie sur son sort. C'est un loser, c'est quelqu'un qui est capable de s'appliquer à lui-même l'humour qu'il peut porter sur les autres. C'est ça l'humour. L'humour, en fait, c'est d'être capable de s'appliquer à soi-même le regard sarcastique ou critique ou rieur que l'on porte sur la société. Et vraiment, c'est le fil de ces jeunes garçons, c'est de ces jeunes YouTubers, c'est l'image du loser, ce qui en dit très long, à mon avis, sur la société contemporaine et la vision dont les jeunes garçons se voient dans cette situation avec une montée importante des femmes. Tout le monde sait que dans les études, 60% des masters, ce sont des masters chez les femmes. Voilà. Et doctorat aussi, mais il n'y a pas beaucoup de doctorats.
J'avais dit que moi je suis belge, donc les blagues sur les blondes, ça nous a fait beaucoup de bien parce que c'était les mêmes, mais qui ont juste changé de non, c'est vrai.
De tête.
Oui, de tête. Et je, voilà. Mais non, tout ça pour dire que oui, c'est vrai, il y a ce que vous disiez, je pense que la nouvelle génération est beaucoup moins comme ça. Et dans mon duo avec Charline Vanhoenacker sur France Inter, c'est plutôt moi qui suis l'idiot du village et elle qui est la sérieuse qui ramène. Et voilà. Mais donc. Pouvez-vous rassurer là-dessus? Ça me dit rien, ne m'attendiez pas. Et donc, alors, j'ai des notes un peu au vol. Hein. Oui, par rapport à Vous parliez de rire de ventre et de rire de tête. C'est ça que je voulais faire la différence. C'est-à-dire que sur Internet, parfois, quand on voit quelqu'un qui tombe, oui, c'est un pur rire de ventre. C'est-à-dire que c'est rigolo, c'est la réaction naturelle qu'on a. Et quelqu'un qui tombe sur une peau de banane, je pense que pendant des années, ça nous fera encore rire parce que c'est, je pense même c'est que c'est épidermique. Ce qui est à opposer au très écrit où vous vous dites, en fait, il m'a apporté quelque chose, il y a eu du travail là-dessus, et ça m'a fait rire par son décalage. Mais, donc nous, idéalement, l'humoriste de scène, il aime bien avoir les deux, parce que le rire de fond d'entrée très... enfin, il y a très peu de blagues qui réunissent vraiment les deux. Mais Chaplin parvenait à donner du sens à des conneries visuelles, et ça, c'était un peu... Je peux vous dire que j'étais d'accord avec vous. Et pour revenir sur le parcours Radio Scène, madame l'a bien expliqué, et ça ramène à ce que disait Antoine, c'est-à-dire que la médiatisation pour nous, c'est le premier pas, c'est gagner sa vie, et on peut la gagner, et au Québec, essentiellement en jouant dans des bars et tout ça, on peut la gagner. Et le deuxième, c'est de choper une place dans un média qui va, à ce moment-là, permettre ce qu'ils appellent le 360 degrés, c'est-à-dire qu'on vous a vu à la télé, donc, enfin, essentiellement, c'est la radio qui vient vous voir sur scène. Pas parce que vous êtes un bon humoriste de scène que vous ferez un bon humoriste de radio, mais ça arrive. Et donc, les gens qui vous écoutent à la radio se disent, ah bah tiens, en fait, il est sur scène, on va aller le voir aussi. Et puis là, la télé se dit, ah bah tiens, il y a beaucoup de gens qui le paient. Et donc, résultat, après la publicité, enfin, c'est pas une nécessité de ça toujours, mais tout ça nous récupère. Et par rapport à ce que vous disiez du rire de nécessité et du rire sur Daesh, j'ai pu voir l'an dernier, suite aux attentats de Charlie d'ailleurs, parce qu'on est tombé là sur un cas tout à fait particulier. Nous, les humoristes de radio, par rapport à l'événement, en règle générale, quand il y a quelque chose qui est une tuerie ou un accident en Belgique, on avait eu un autocar d'enfant Kalowski qui était tombé, il y avait 23 morts, je crois. Le lendemain, l'humoriste, en général, ne vient pas parce que personne n'a envie de rire. Et en général, comme on traite l'actu, fatalement, ce n'est pas amusant. Avec Charlie Hebdo, on a eu un cas extrêmement particulier qui était, en fait, là, on est obligé parce qu'on s'est attaqué à ce rire-là. Eux-mêmes, sans doute, auraient voulu qu'on essaye de rire le lendemain. Extrêmement compliqué, mais là, il y a eu ce rire un peu, cette volonté de rire, ce rire, je ne sais pas, de résistance, j'aime pas toujours ce mot-là, mais on s'est retrouvé un peu en première ligne de... moi, par exemple, j'aime beaucoup le mot fou du roi parce qu'on vient emmerder les gens. Moi, souvent, j'ai un politicien le matin à France Inter, je viens l'emmerder, puis je m'en vais. Moi, je ne pourrais pas faire ce qu'il fait, mais j'aime bien que l'auditeur se dise « Ah ben tiens, moi aussi, je pense un peu ça, il m'a fait rire, je l'ai ennuyé, je l'ai titillé. » Et maintenant, avec ce qui est arrivé là, on s'est retrouvé, les gens disaient « Continuez, faites-nous rire, c'est important. » Waouh, on voulait pas du tout ça. Moi, c'était parce qu'on était des planqués au départ qu'on a fait ce métier-là. Et ben, on nous met un peu en première ligne. C'était pas le but. Et j'ai vu ça essentiellement avec mon collègue Frédéric Fromet qui fait des chansons humoristiques. Qui, je crois, le vendredi d'après Charlie, donc on est quand même 3 jours plus tard, fait la chanson Koulibaly Koulibalo pour se moquer du fait que. Et je sens dans le public parce qu'on était en déplacement. Je sens un rire extrêmement fort de gens qui n'attendaient que ça, de pouvoir enfin passer à autre chose que cette souffrance qu'on tenait. Et donc cette chanson, un mois plus tard, n'aurait pas eu droit à ce même rire. Ça aurait peut-être été différent, plus... Oui, cathartique, exactement. Et donc en ça, est-ce qu'on est nécessaire? Est-ce qu'on est trop dans les médias? Je ne sais pas. Et de nouveau, quand il y a eu le 13 janvier... avec l'émission de l'après-midi, on a été les premiers à prendre un autre ton que le ton BFM Télé, de dire oui, on va aller voir l'enquête, Salah Abdeslam serait passé par là, machin. Et on a été les premiers un tout petit peu redonner un ton de vie à l'antenne, et on a reçu énormément de messages. Peut-être qu'il y a des gens qui sont choqués par ce ton-là à ce moment-là, mais il y a énormément de gens qui en ont eu besoin, et Jawad a beaucoup fait pour tout le monde, nous a donné beaucoup de grains à moudre.
Mais je vais vous dire, j'ai regardé, il y a un humoriste en Irak qui, maintenant il a été obligé, je crois, de se déplacer en Jordanie, mais il émet à la radio ou à la télévision. C'est un journaliste, c'est aussi ça qui m'intéressait. Alors je ne comprends pas l'arabe, mais visiblement, il joue ce rôle humoriste donc sur l'actualité, qui est quand même une actualité terrible dans ces pays-là. Et il y a aussi donc un humoriste qui joue votre fonction de bouffon, de catharsis, y compris dans ces pays qui, où ce n'est pas des sociétés démocratiques.
Moi, j'aimerais qu'on élargisse à partir de là, parce que là, on a fait comme si, au fond, dans les médias, puisque la question que tu nous as posée, c'est l'humour dans les médias. Dans les médias, l'humour avait sa place, donc avait ses cases. Donc l'humoriste dans la matinale de France Inter qui vient titiller le responsable politique ou dans le Canard enchaîné, là c'est très ancien, des papiers qui sont des textes imaginaires et qui ne sont pas de vraies interviews, qui sont faits pour... Bon. Mais en fait, ça ne résume pas, à mon sens, toute la question qui est celle de la place de l'humour dans les médias. Et on a en France, me semble-t-il, une spécificité de ce point de vue, un mélange des genres qu'on ne retrouve pas. Alors, vous connaissez d'autres pays, la Belgique, le Canada, mais vous connaissez aussi d'autres pays. Moi, je suis frappé, j'ai vécu longtemps en Grande-Bretagne, et ce qui semble très français et que le Canard enchaîné incarne, c'est-à-dire un journal qui est le journal qui à la fois est le journal de l'humour et en même temps celui des révélations, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, d'investigation. Ça n'existe pas en Grande-Bretagne. Quand vous prenez, tout le monde dit l'équivalent, c'est Private Eye. Private Eye, c'est un journal comique uniquement. Il n'y a jamais la moindre révélation dans Private Eye. Et cette tradition française du Canard enchaîné, elle a été perpétuée. On peut dire d'une certaine façon que le travail remarquable, à mon sens, que fait le petit journal tous les jours en France, poursuit ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses extraordinairement drôles, purement gratuites, et puis il y a tout type de rire d'ailleurs, et puis il y a du grand reportage. Ce que fait Martin Veil est extraordinairement sérieux et décalé, mais d'une autre façon, avec du journalisme sérieux. Pour prendre un autre exemple, moi j'ai été directeur adjoint de Libération pendant un certain temps. C'est un journal dans lequel l'humour dans la titraille est extraordinairement important, qui est en train de disparaître à cause du web, parce qu'il faut pouvoir aujourd'hui faire des titres avec des mots-clés pour qu'on puisse les retrouver sur les sites, et donc c'est pour ça que c'est en train de disparaître progressivement, personne ne l'a remarqué. Mais regardez, prenez un Libé d'aujourd'hui et prenez un Libé d'il y a 2 ou 3 ans, la différence est sensible. Et souvent vous avez un mot-clé, 2 points, et éventuellement une blague derrière, ce qui casse un peu quand même les choses. Mais cet humour qui est toujours... moi j'ai vécu des débats récurrents dans cette rédaction sur est-ce que vraiment on ne devrait pas arrêter de faire des jeux de mots dans les titres, est-ce qu'on deviendra un jour un journal sérieux comme Le Monde tant qu'on fera ça, et puis des gens à l'inverse qui disent mais non, c'est notre identité, il faut absolument continuer à faire ça. Et c'est vrai que c'est jubilatoire, enfin je veux dire, pour avoir fait beaucoup de une quand je sais pas, il y a l'affaire du concombre contaminé qui surgit en plein Sofitel de New York, et que vous décidez de faire cette image, vous mettez en gros un concombre avec présumé coupable, vous produisez de l'humour visuel et avec deux mots, et cet humour visuel il est fait en général, c'est un travail d'équipe par des gens qui sont des journalistes, des maquettistes. C'est pas des humoristes, il n'y a aucun humoriste dans la bande. C'est vraiment des journalistes, des secrétaires de rédaction et des maquettistes. Donc cet humour, il est dans les médias extraordinairement présent et pas l'apanage des humoristes. Il est présent, et moi il me gêne parfois dans les bulletins d'information radio, parce que je trouve qu'ils ont considérablement évolué depuis une dizaine d'années. Écoutez la radio, la BBC le matin, les journalistes ne se permettent pas les bons mots qu'on entend sur France Inter, sur Europe 1, sur toute la radio en France, mais vraiment. Et en France, je pense, j'ai pas fait l'expérience, mais si on prenait un journal d'il y a 10 ans, on s'apercevrait qu'il est beaucoup plus sérieux, qu'il y a aujourd'hui une liberté de ton, une subjectivité qui passe souvent par l'humour de la part du présentateur du journal radio. Pas les reportages, pas les sujets, mais le présentateur fait un lien et par ailleurs, ça a des incidences, vous le disiez, sur la structure de la matinale où une place comme celle que vous occupez n'était pas envisageable. C'est-à-dire, elle était beaucoup plus cantonnée autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Il n'y a plus que les JT télévisés et le jour du Seigneur où il n'y a pas un humoriste. Et les JT télévisés, c'est presque truqué, parce que Canteloup, ce qu'il fait après le JT sur TF1, dans le même plateau, dans le même code couleur, on est quasi dans la prolongation comme nous on le fait en radio. Donc, alors je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Je note que bon, c'est une chance pour nous, évidemment. On est souvent la pastille la plus échangée par le web et tout ça, des matinales, parce que les gens attendent aussi, quand vous avez eu 20 minutes de Trévidic sur les attentats, d'avoir quelqu'un qui derrière vient un tout petit peu alléger, détendre, décaler. Après, je comprends qu'on puisse ne pas aimer, Mais il s'avère que France Inter, qui était devenu très, qui était très carré, s'est un peu ouvert et est devenue la matinale la plus écoutée de France. Et on a la chance, comme on est à Radio France, d'être complémentaire avec d'autres antennes. Et sur culture, je sais qu'il y a 4-5 ans, dans Télérama, Olivier Poivre d'Arvor avait dit « Je ne cherche pas un humoriste, mais si j'en trouve un qui me correspond. » Et seul François Rollin avait une pastille, mais pas du tout dans les moments d'information.
Il y a les papous quand même. Il y a un humour littéraire depuis 30 ans. Enfin, bon, oui.
Mais voilà, et donc, c'est-à-dire que l'auditeur qui n'a pas du tout envie des scories sur Inter a tout à fait le produit complémentaire. En ça, je trouve ça plutôt agréable.
Antoine Benoît.
Oui, non, mais justement, je suis très surpris que cette question-là que Sylvain Bourmeau soulève, ça ne soit pas la question centrale de la table ronde. Je pensais qu'on traiterait que de ça. Et à mon avis, le fait qu'on n'en arrive qu'à ce moment-là, c'est très symptomatique de ce que sont devenus les médias. Vous avez compris, je n'ai pas une vision très, très positive des médias. Parce que la question, en tout cas, moi, comment j'ai lu quand j'ai vu le thème de la table ronde, je traduis avec mes mots à moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'humour sert peut servir l'information. On l'a juste pas du tout abordé. À mon avis, pour une raison extrêmement simple, c'est que les médias ne font plus d'information. Ils font du divertissement. L'essentiel, la majorité des médias sont font du divertissement, c'est-à-dire se sont transformés en agences publicitaires d'une petite coterie qui les tient extrêmement liés à toutes les élites. Je parle pour la France, hein, le Québec, à part que j'ai pris mon billet d'avion pour aller au Québec, vu que c'est un paradis, je me demande si les humoristes au Québec guérissent le cancer et inversent la courbe du chômage. Ils ont tous les pouvoirs. Mais donc, en France, des agences publicitaires, que sont les mass médias, alliées à une caste d'humoristes de pitre, hein, puisque c'est de la pitrerie, alors après chacun emploie ses mots, alors humour de ventre, de lol, de lolcat, je sais pas quoi.
On s'entend bien.
Hein. Ouais.
Je me regarde inquisiteur.
Lolcat, c'était. Okay. Mais parce que par ailleurs, j'adore Alex.
C'est tout à fait pertinent.
Merci Alex, merci. J'ai ta validation, ça fait super plaisir. Bon, et donc si on essaye d'abord se demander si les médias, enfin les journaux, font encore de l'information, bah, pour l'essentiel, je suis désolé, mais non. C'est-à-dire qu'il y a des grandes centrales d'information qui vont collecter l'information, genre AFP, et après vous n'allez qu'à voir comment ça se passe, il suffit qu'il y ait une dépêche AFP pour qu'ensuite tout le monde fasse du copier-coller. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une sorte d'écosystème, hein, c'est la théorie des dominos. Donc il y a l'AFP qui a vaguement fait son taf, les mecs sont sous-payés, ils n'en peuvent plus, eux ils sont en burn-out, et ils vont effectivement vaguement collecter de l'information, donc ils font la dépêche. Après c'est repris partout en copier-coller, c'est-à-dire que je n'invente pas, hein, c'est juste, voilà. C'est assez simple, hein, clic droit. Donc ça passe dans la presse écrite, parce que ça tout part de là. Ensuite, la presse écrite, alors moi j'ai bossé chez Ruquier, voilà, bon, je sais très bien comment ça se passe. Il lise les journaux, il est parisien, après bon, il fait sa petite sélection de journaux, bien entendu, et il traite des sujets qui ont été traités par la presse écrite. Donc déjà, bon voilà. Et ensuite, donc, parce que la presse écrite, puis la radio en aura parlé, la télé va en parler, à condition qu'il y ait eu une masse critique. Donc à la fin, on en sort, on en revient à ce que je dénonçais à ma manière avec les Shadocks. Donc les médias, enfin les journaux, ne font plus de journalisme. Ils ne font plus donc de recherche d'informations et de traitement d'informations, sauf des grandes centrales et des médias alternatifs, type Mediapart ou Le Canard Enchaîné. Et donc, si parmi tous ceux qui font encore de l'information, on se demande ceux qui essayent d'utiliser le rire pour servir l'information, à la fois la collecter et la traiter, ben, il n'y a plus grand monde. Moi, je trouve qu'il n'y a plus que Le Canard Enchaîné.
En fait, je peux peut-être apporter un petit bémol avec la situation québécoise où on a encore... On est très héritier de la BBC au niveau de l'héritage journalistique, en tout cas pour ce qui est de la télévision d'État, qui est Radio-Canada. Vraiment un copier-coller de la BBC. Donc, il y a encore ce besoin de rigueur journalistique de ce côté qui est vraiment préservé. Par contre, les émissions d'infodivertissement, eux, c'est très clairement identifié. En fait, tout le monde en parle, complètement acheté de la formule française. Et on a une émission qui se nomme Infoman. En fait, ce n'est pas un humoriste, c'est un homme qui est journaliste, qui fait des enquêtes. D'ailleurs, une de ses plus grandes enquêtes a été, durant les élections, de se déguiser en toutes sortes de costumes, que ce soit un Jedi, que ce soit un Stormtrooper, que ce soit... Et il est allé voter 5 fois dans la même journée, sous un déguisement, pour montrer à quel point le système des élections canadiennes était mal foutu, excusez-moi, mon anglais. Donc, il y a encore cette... l'humour va être utilisé de ce côté, bien entendu. Mais voyez-vous, Jean-René Dufort, qui fait Infoman, on lui a refusé sa carte de journaliste pendant des années. Il a été que récemment accepté. Non, il y a encore cette barrière. Moi, je vous dirais, le Québec où on se rapproche de ça, c'est la radio poubelle. Les commentateurs poubelles, les commentateurs populistes qui vont faire des commentaires à tout vent, souvent qui n'ont absolument aucune recherche derrière et qui sont là tout simplement pour frapper sur les controverses ambiantes. Donc ça, c'est plutôt le phénomène populiste qu'on a, mais il y a des humoristes qu'on a rencontrés, même Kim Lizotte, qui est une des humoristes de la relève, qui est très, très politisée, qui fait un humour politique et social. Pour une belle fille, c'est rare, et on le dit souvent parce que les humoristes femmes, malheureusement, si elles sont trop belles, ça joue contre elles au niveau du public féminin. Les femmes vont se sentir en compétition dans la salle avec l'humoriste sur scène alors qu'elles sont accompagnées de leur conjoint. Et Kim, elle, a décidé d'y aller à fond avec sa féminité, et en plus, elle est extrêmement intelligente. Et elle a passé plusieurs auditions pour des émissions d'actualité. Et on lui disait toujours, non, on ne veut pas une chroniqueuse humoriste. On va préférer avoir une chroniqueuse journaliste qui va faire une petite blague une fois de temps en temps, légère, au lieu de vraiment engager quelqu'un qui a un bagage et qui a une construction humoristique, en plus d'avoir une tête sur les épaules. Donc, de notre côté, il y a encore un certain filtre.
C'est ce que disait Sylvain, c'est qu'en fait, on peut trouver de l'humour qui est censé servir la formation, mais ce n'est pas fait par des humoristes.
Non, et voilà.
Et on cantonne, ou ils se cantonnent, parce que c'est encore une fois un écosystème, à de la pitrerie, pour beaucoup.
Mais le phénomène est moins populaire, heureusement, pour l'instant.
Je voudrais juste relativiser un tout petit peu cette espèce de prégnance de l'humour qui paraît être une évidence pour tout le monde aujourd'hui, et rappeler que la France a quand même une tradition d'humour, et que le mot d'esprit, notamment dans les salons, dans les conversations du XVIIIe siècle, était vraiment érigé en valeur suprême. Donc ça n'a pas émergé au XXIe siècle, mais il y a vraiment un ancrage du mot d'esprit dans lequel vient sans doute s'enraciner cette dimension actuelle de l'humour, mais qui est beaucoup plus ancien.
Les Québécois sont extrêmement héritiers d'ailleurs au niveau de la presse écrite.
Oui, donc je voudrais aussi relativiser un petit peu ce que vous dites, parce que quand même, les radios, les grandes radios généralistes ou les télévisions, ils entretiennent des rédactions de plusieurs centaines de journalistes. Hein, donc il y a quand même une fabrication de l'information par les grandes radios. Non, ce qui a effectivement changé, c'est ce qu'on appelle l'infotainment, et qui a été au départ lancé par Canal+, et qui a été très fortement développé dans les radios et même dans les autres télévisions. Et moi, l'explication que je donnerais, c'est que, en fait, les médias, et notamment les médias audiovisuels, ils ont une fonction qui n'est jamais véritablement précisée, qui est qu'ils doivent insuffler une énergie positive. Les médias, c'est un carburant de la société, et ce carburant, c'est aussi quelque chose qui doit être à la fois, évidemment, donner de l'information, mais être capable à la fois de porter un regard oblique. Parce qu'en plus, le spectateur, il est comme ça. Le spectateur, il voit une information, il la décode, et il la décode éventuellement sur un mode humoristique. Et cette place de l'humour, elle vise aussi à accompagner l'état d'esprit du spectateur. Je pense que tout a complètement changé. L'espace public a complètement changé. Et cette dimension d'insuffler d'une énergie positive, je fais beaucoup de travaux sur les médias audiovisuels avant de travailler sur le web, et c'est une dimension qui est prise en compte dans tous les programmes, y compris l'info.
Attendez juste un truc, c'est pas parce qu'il y a des journalistes qu'il y a de l'information. Hein.
Non, d'accord.
Ouais, et c'est pas parce qu'il y a des fonctionnaires qu'il y a du service public. Enfin, c'est toujours la même logique.
Peut-être il y a, en parlant de public, des questions dans la salle. Je crois qu'il y a la possibilité qu'un micro circule, il me semble. Oui. Il y en a une au milieu de la salle.
Bonsoir. Moi, en fait, il y a plein de choses que je pourrais dire à propos de vos propos. Moi, il y a une question qui manque, enfin un point qui n'a pas été abordé, c'est le triangle entre les médias, donc effectivement l'information, la politique et les humoristes. En fait, dans le sens où aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face quand même, les médias retranscrivent, entre autres dans les journaux télévisés ou autres, une certaine idée de la société, une certaine vision du monde et tout ça, qui est bien liée à la politique. Et dans le même temps, en fait, bien que j'adore l'humour, les humoristes et tout ça, moi-même, je commence du théâtre d'impro, qui est une forme d'humour. Voilà. Les humoristes sont quand même aussi un moyen de faire véhiculer certaines idées. La preuve en est, on a un humoriste dernièrement, Dieudonné, qui a quand même fait avancer certaines idées, malheureusement. On a certains humoristes qui ne passent plus sur les plateaux télévisés, ou très peu, enfin pas devant, voilà, pas sur TF1 ou sur M6 ou des choses comme ça. Je pense par exemple à Didier Porte ou à Stéphane Guillon. Un certain nombre d'humoristes qu'on voit beaucoup moins, en fait, par rapport à d'autres. Voilà, contrairement à Gad Elmaleh qui va passer dans une publicité. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas traité ce rapport-là des humoristes vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des médias.
Merci.
Voilà. Et par dernier point, madame, je ne me rappelle plus de votre nom, je suis d'accord avec vous sur la question sur les femmes, en fait, qui est vraiment un des piliers de l'humour. Mais tout simplement, c'est la même chose pour le racisme et tout ça. Moi, en tant que blanc, homme, qui est ingénieur, franchement, les seuls qui sont capables de faire des blagues sur moi en matière de stéréotypes, c'est des physiciens. C'est-à-dire vraiment des gens très peu...
L'humour geek.
Comment ?
C'est l'humour geek, comme on dit, non ?
Voilà, mais... Et même... Enfin, pas que geek. Enfin, c'est vraiment une partie très spécifique. Les informaticiens se foutent pas de ma gueule. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, il y a vraiment, effectivement, l'humour, il transmet quand même quelque chose, le fait qu'il y a une petite partie de la population qui domine l'ensemble des autres. Les hommes blancs, voilà, qui sont riches et tout ça. Et donc, les femmes, les noirs, les arabes, les juifs. Par exemple, vous avez parlé d'arabes.
Merci.
Et musulmans.
On va laisser répondre les intervenants, parce que sinon, je pense qu'on a compris votre point.
Moi, je veux bien répondre, parce que je le connais bien, le lien, étant donné que moi, je ne gagne pas encore ma vie avec l'humour. Et il se trouve que le jour, je travaille au Sénat. Alors, les hommes politiques, je les vois. Donc, le lien, il est très simple. Comme les médias ne sont plus là pour faire de l'information, ils ferment leur gueule. Et je peux vous dire que s'ils savaient le quart du tiers de tout ce qu'on voit quand on travaille en politique, peut-être que le système ne fonctionnerait pas très longtemps. Donc à partir du moment où les médias ne sont plus là pour révéler quoi que ce soit, mais des trucs, mais vous seriez mort de rire, hein. Franchement. Mais y a du, venez, faites un stage, c'est vraiment sympa.
Fais un blog, Antoine.
Oui, c'est ça. Mais parce que moi, je veux garder mon taf aussi.
Et j'en arrive
aux humoristes qui veulent eux aussi garder leur taf. Donc ils sont là dans des médias, donc y a une ligne éditoriale, même si elle n'est pas explicite. Et puis quand ils débordent la ligne, parfois ils se font recadrer, voire virer, ou bien puisque c'est la génération du pitre, de toute façon ils n'ont pas non plus ni la formation ni même l'intérêt pour s'intéresser à ces questions-là. Ils sont pas là pour ça, voilà.
Nous, en fait, c'est extrêmement... Il y a eu une recherche qui est sortie il n'y a pas longtemps. À quel point les politiciens sont extrêmement comiques, font énormément de blagues alors qu'ils sont au Parlement. Selon les chercheurs et selon les députés interrogés, c'est une manière pour eux de faire baisser la pression. Donc, ce que l'on voit à la télévision, les débats très serrés, des fois pratiquement sanglants entre les députés au Québec, en fait, ce qui se passe en chambre entre les séquences vidéo est extrêmement tordant pour les gens qui travaillent là. Ce qui paraît, les policiers ont besoin de cette soupape qui est de l'humour pour vaquer à leur responsabilité. C'est probablement ce qui explique le grand lien de nos politiciens avec les émissions d'infotainment. En fait, en campagne électorale, tous les politiciens vont passer à Tout le monde en parle ou vont avoir leur séquence à Infoman parce que, justement, et comme vous le disiez d'ailleurs, l'humour est tellement social. Il construit un lien tellement fort entre l'émetteur et la personne qui le reçoit que les politiciens capitalisent énormément sur l'humour pour garder ce contact avec les gens qui vont voter.
Alors, sur, juste un mot sur l'humour, sur le sexisme et l'humour. Vous mettez le doigt sur, si je puis dire, sur un point qui est très important, qui est celui de savoir qui fait l'humour. Et bon, précisément, dans les médias, enfin, dans le média que j'ai pu évoquer, le Canard enchaîné, ou dans d'autres médias, on peut penser au Guignol de l'info, qui ont quand même occupé la scène télévisuelle pendant de nombreuses années et ont incarné non seulement l'humour canal, mais l'humour télévisuel. Ce dont on se rend compte, c'est que l'équipe des humoristes est composée à 99,9% d'hommes. L'équipe des Guignols, très peu de femmes.
Ça change et ça devient même du sexisme inversé parce que la matinale. Non, mais c'est vrai, non. On dit c'est plus facile d'être une humoriste féminine parce que vous êtes moins. Vous êtes très drôle, mais je ne sais pas si vous voulez faire le métier. C'est vrai, c'est le seul domaine de la scène, je vous laisse parler après. C'est-à-dire que quand on est comédien, c'est beaucoup plus facile d'être un homme parce qu'il y a plus de grands rôles masculins et il y a moins de jeunes comédiens que de jeunes comédiennes. En humour, c'est le seul, si vous voulez commencer et vous voulez monter sur scène en tant que fille, faites de l'humour parce qu'on en demande et c'est tant mieux.
Alors, bon, la salle a bien compris le message, mais à ce moment-là, comment expliquer que, par exemple, dans l'équipe des Guignols, dans le Canard, dans tout un tas de
les auteurs, mais les visages à voir.
D'accord. Pardon ?
C'est l'effet Angoulême. Oui, c'est l'effet Angoulême, dit madame.
Parce que là, Angoulême. Oui, absolument, tout à fait, mais qu'on retrouve partout. Hein, qu'on retrouve absolument partout. Donc, le coup du sexisme à l'envers, je veux dire, après 2000 ans de sexisme à l'endroit...
C'est pas une critique, mais c'est vrai que on m'a déjà dit... on va prendre quelqu'un encore dans la matinale. Il faut que ce soit une fille.
Après 2000 ans de sexisme à l'endroit...
Eh bien, très bien. Je suis content d'être de la première génération qui va en souffrir.
Est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond en France, présentement, d'avoir cette discrimination positive?
Moi, j'espère que ça va changer, qu'on va retrouver beaucoup d'emplois pour les hommes, moi, je dirais.
Non, en fait...
Mais c'est un mouvement, c'est bien au-delà de la question des humoristes. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans les médias qui ont pris conscience qu'il fallait que les choses changent. Et je veux dire, on a eu des politiques de recrutement et d'évolution de carrière et de nomination avec de la discrimination positive. Oui, enfin moi, comme responsable de médias, je l'ai beaucoup fait aux Incuptibles, à Libération, à France Culture. À chaque fois que j'ai occupé des postes où je pouvais le faire, je l'ai fait. Donc oui, je pense que je ne suis pas du tout une exception. Enfin, je veux dire, mais simplement, ça ne va pas se faire. Il faut un peu de temps. Quoi. Mais de la même façon que le ministère de la Culture s'est mis à le faire aussi il y a peu de temps.
Dès que les portes commencent à s'ouvrir, ensuite...
Une autre question ?
Très rapide. Moi, j'essaie de faire rapide. Merci pour vos interventions. Pardon ? Oui. Oui, par rapport... vous parlez de marché, de produits, de les médias, et comment l'humour, en fait, s'insère là-dedans, comment travailler là-dedans. Mais moi, je me demande, parce que j'utilise l'humour, comme ressort, pas en tant que fin, mais justement pour dire des choses. Et je suis assez atterré par le... Globalement, il y a beaucoup d'humoristes partout, tout le temps. Et vous parlez de médias, et je trouve qu'il y a un lien aussi avec médias et immédiats. C'est qu'il faut tout le temps, à toute heure, la petite dose d'humour, et je me demande si elle est bonne, quoi. Mais ma question, c'est si les médias, c'est tellement prenant, c'est tellement compliqué, il n'y a pas d'autres moyens hors... scène, télé, radio, est-ce que, je sais pas, pensez à d'autres plateformes pour l'humour?
Vous avez une idée ou vous attendez de moi que je... Mais non. Pour nous, on a été très surpris, en tout cas les humoristes de médias traditionnels, de voir arriver le web. Et moi, par exemple, j'ai raté le... wagon, ce qu'on dit wagon chez nous. J'ai raté le wagon et j'ai été très. Quand Norman avait 10 millions de vues, je me suis dit, peut-être c'était une bonne idée de faire ça. Vraiment, j'ai raté la logique de ce média-là. Et ce que vous dites là, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Quel va être le prochain média ? Twitter est devenu une donne, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire la meilleure vanne sur un événement qui est arrivé 10 minutes après. Si moi je passe le lendemain matin à l'antenne, je vais plus la faire, tout le monde l'aura retweeté, tout le monde l'aura vu. Ça a été une donne en plus. Tout ça sont des donnes, et le fait qu'on soit trop présent, en fait, ça c'est un peu notre corps défendant, c'est-à-dire qu'il s'avère que les gens, enfin les audiences prouvent, alors c'est pas parce que beaucoup de gens regardent que c'est mieux, mais ça, les médias le demandent, et donc ça nous fait un espace de jeu. Et quand vous dites à un humoriste, prenez un espace de jeu, bah il y va.
L'espace de jeu sur Internet, en fait, ça devient payant au bout d'un certain nombre de clics. Vous êtes, YouTube vous rémunère. C'est comme ça que c'est. Pardon ?
Si vous le souhaitez.
Si vous le souhaitez, d'accord. Bon, enfin, en général, surtout si vous êtes un artiste débutant, a priori, vous ne refusez pas. Mais c'est de cette façon-là que...
Pardon. Il y a la question de l'argent qui... Bah, quand on regarde la carrière de Buster Keaton, à partir du moment où il a été employé avec une grosse société de production, bon, ça a complètement coulé pour lui. Et là, je pense, à, même en art, on en parle aux Beaux-Arts, c'est... Dès qu'on commence à faire pour faire de l'argent, on se bride, je trouve. Et justement, la limite de ça. Enfin, je me pose la question, quoi. J'ai pas de réponse.
Mais en fait, c'est pas le propre de l'humour. En fait, c'est le propre de tout art ou tout domaine culturel. L'attrait du business, l'attrait économique est très, très fort. Ce qu'on constate présentement au Québec, c'est qu'on n'a jamais eu une aussi grande diversité créative au niveau de l'humour. Il y a de la place pour toutes les niches. Il y a même de la place pour l'humour GHB, donc l'espèce d'heavy metal de l'humour où on retrouve des blagues d'enfants morts et de viols. Je veux dire, il y a un public pour tout maintenant. Donc, je ne suis pas prête à dire que l'économique va tirer absolument toujours.
Allez, deux dernières questions.
Promis, c'est une vraie question. C'est plus pour Madame Daniaud. Justement, on parlait de Twitter, l'aspect justement très ouvert de Twitter. Comment les humoristes, justement, je voulais aussi votre avis en tant qu'humoriste, sur un média libre avec beaucoup de possibilités de vues, quel est le rapport de l'humour, par exemple, aux médias sur... est-ce que vous pensez que les humoristes peuvent avoir leur place sur un média comme ça, tout public?
Oui, non, moi, je pense que sur Twitter, les humoristes ont une place importante parce que, d'abord, c'est une émotion, l'humour. Et c'est une émotion qui est très, très, très présente dans nos sociétés et sociétés démocratiques. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a place pour une multitude d'humour et Twitter est un lieu justement qui peut véhiculer absolument tout, y compris des artistes en herbe qui espèrent pouvoir un jour en vivre, puisque comme je vous ai dit, YouTube rémunère quand vous avez eu beaucoup de clics. Donc vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes artistes en herbe sur YouTube pour cette raison-là, parce qu'ils espèrent à la fois avoir un gagne-pain et surtout se faire voir, puisque les producteurs, ils viennent, ils font de la veille permanente pour voir ce qui se passe dans un média comme Internet, et en particulier sur Twitter, mais surtout sur les blogs et sur YouTube.
Twitter a été extrêmement pourvoyeur d'auteurs pour les humoristes en place. Parce que quand vous voyez un gars qui 10 fois fait une vanne extraordinaire sur un sujet... Vous lui passez un coup de fil pour savoir s'il n'a pas envie de se les faire payer. Et pas mal d'auteurs se sont révélés là-dessus et continuent à tweeter, mais travaillent aussi pour des humoristes dans les médias traditionnels.
Il faut le souligner, c'est une épreuve olympique de faire une bonne blague en 140 caractères.
Tout à fait.
C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc,
il y a pourtant beaucoup de gens qui essayent.
Hein,
Et pas que des gens qui veulent devenir humoristes. C'est-à-dire que la place de l'humour sur Twitter, de manière générale, est assez massive. Mm-hmm. Beaucoup de gens s'y essayent et encore une fois, juste pour le plaisir. Enfin.
C'est un genre humoristique à part entière, hein, c'est la punchline.
Si vous enlevez l'humour et la méchanceté de Twitter, il ne reste plus grand-chose. Hein.
Il y a une dernière question ? Oui.
C'est juste deux réactions par rapport, je transite vers Twitter. En fait, il y a effectivement beaucoup d'auteurs qui ont été révélés par Twitter, parce que aussi, beaucoup de tweetos, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, se sont plaints en message en quelque sorte privé aux humoristes de plagier, et je reviens à la question du plagiat, leurs blagues. Et donc du coup c'est ça aussi, les tweeters n'ont pas supporté le plagiat et du coup la notoriété d'une blague par des humoristes qui ont eux la notoriété et la visibilité médiatique.
Alors par rapport au Québec,
c'est surtout les jeux de mots en fait, plutôt que des
en
blagues
en France, parce que... plagiat on appelle ça hommage. Et on ne cite évidemment, on ne cite pas le... Non, moi, je suis très d'accord avec vous, mais si vous prenez le nombre de spectacles traduits, mais des grands, hein, Jamel a traduit Eddie Murphy, Gad a traduit Seinfeld, et après, ils se font potes avec eux, comme ça, tout le monde s'y retrouve, et il lui file un peu de droit d'auteur, sans doute, et qu'est-ce qu'il s'en fout, Seinfeld, que 60 millions de personnes aient eu sa blague. On est bien d'accord. Et donc, vous avez raison dans ce que vous dites, mais il y a eu des gens qui l'ont aussi fait honnêtement, de dire, merde, ce gars est drôle, je vais me demander qui c'est. Il y a aussi l'inverse qui est Twitter. Il y a pas de droit d'auteur. Moi, j'ai jamais trop fait de blagues sur Twitter parce que j'ai la chance de me faire payer pour les faire. Je ne sais pas pourquoi je les donnerais gratuitement. Et si les gens la jettent comme ça dans la fosse sous loup, si vous me faites une blague là maintenant et que demain je la fais en radio, vous allez venir m'appeler. Je trouve ça aussi bizarre. Maintenant, quand c'est toujours le même humoriste qui systématiquement a la vanne qui était hier en top tweet, on a droit de se dire qu'en fait le gars ne fait pas bien son travail. Ça, je suis d'accord avec vous.
Il fait de la veille.
Il fait de la veille. Non, il y a des sites de journaux qui reprennent dans un article les meilleures vannes de Twitter sur un tel sujet. Et donc à ce moment-là, vous êtes cité, vous-même, vous pouvez avoir de nouveaux followers.
Oui, également au Québec.
Oui. Après, ça vient aussi à un moment un peu de crispation du côté des humoristes et des auteurs, où il y a quand même, vu qu'apparemment ils sont de plus en plus nombreux, ils se regardent et il y a quand même on s'accapare aussi sa création et son imagination humoristique et on la cloisonne vers un droit d'auteur. Et puis là, je réagis très vite fait sur la question du sexisme et notamment au Guignol de l'Info. Pour avoir fait un travail sur les humoristes d'actualité, les humoristes politiques, et avoir interrogé les auteurs, les ex-auteurs du coup maintenant, des Guignols de l'Info, j'ai quand même pu constater que, évidemment, il y a des blagues, il y a du décalage sexiste, et que c'est pour ça que la question de l'émetteur est essentielle, de se poser qui est l'émetteur. Et évidemment, ce sont trois hommes, enfin, en l'occurrence, c'était trois hommes blancs, avec donc une forte rémunération, donc tout ce qu'on sait que ça va avec, tout ça. Mais quand même, ce qu'il y a d'intéressant quand je les ai interrogés, c'est que je m'étais rendu compte, et je reviens à ce que disait Alex Vizorek sur le côté utilisation de clichés, parce qu'il ne faut pas quand même oublier le fait que, parce que ce sont des hommes, ils n'auraient pas le droit de tendre vers la blague sexiste pour aller vers la dénonciation. Il faut pas, enfin, c'est toute la mesure du premier et du second degré, à mon avis, voire du troisième, du quatrième, peut-être tellement répétitif et cumulatif qu'on en perd le sens du premier ou deuxième degré. Mais voilà, je voudrais juste dire que d'un point de vue de ceux qui créent l'humour, même s'ils tendent vers le sexisme, pour les avoir interrogés, ils ne sont pas sexistes. Enfin, vous voyez, donc l'émetteur est essentiel et son discours aussi.
Non, l'ambiguïté de l'humour est évidemment un élément constitutif. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est que la force aussi de l'humour, c'est qu'il joue sur tous les tableaux. Et que libre ensuite au récepteur de pouvoir décoder au premier, au deuxième, au troisième degré. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, finalement, l'humour participe directement des stratégies de maximisation de l'audience des médias, parce qu'on peut les lire comme on veut et que, du coup, la cible est d'autant plus large. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport au sexisme des médias, c'est qu'on n'a pas besoin d'être consciemment sexiste pour l'être. Les médias sont, comme la société, structurellement sexistes.
J'en profite quand même pour remercier tout le panel et Sylvain Bourmeau pour l'animation de la table. Merci à tous, merci de votre attention. La Bibliothèque publique d'information sera ravie de vous retrouver demain au Centre Pompidou pour la suite de ce colloque. On pourra aussi parfaire notre culture sur l'art pauvre bientôt au Centre Pompidou. Et on a fait pas mal de choses autour de John Cage déjà à la BPI aussi, donc on pourra te donner quelques billets. Voilà, donc bonne soirée à tous et puis à demain.